Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Salut, c'est Vanessa Destinée
et Dalila Awada.
Racisme, diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler.
Mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment Fort, c'est des discussions animées par des personnes racisées.
Pour les personnes racisées? Nah, pour tout le monde! Gaz!
Pigment Fort.
Salut tout le monde! Nouvelle semaine, nouvelle édition de Pigment Fort. Merci de vous joindre à nous cette semaine encore. J'espère que vous commencez à reconnaître ma voix, mais tout d'un coup que non, ben les présentations, je m'appelle Vanessa Destinée. Je vais être votre animatrice aujourd'hui, puis je suis habituellement accompagnée de Dalila Awada, mais madame est en train de se dorer la couenne quelque part sous les tropiques pendant que moi, je bûche fort et que je me tape les rigueurs de l'hiver québécois. Une snowbird musulmane, avouez que vous aviez jamais eu cette image-là dans la tête. C'est ça, Pigment Fort, man. On vous avait laissé la semaine dernière en vous promettant que cette semaine, on allait parler de racisme dans le sport. Puis je vous avouais du même coup que j'ai zéro culture sportive. Hein. Pour vrai, nada, rien, pantoute. Moi, je suis la fille de théâtre un peu boulotte qui avait peur du ballon au ballon chasseur au primaire. Puis qu'on choisissait toujours en dernier dans les équipes en éduc au secondaire. T'sais. Fait que j'ai littéralement du trauma associé au sport. Je suis pas bonne en sport, mais j'aime regarder le sport. Okay? Je suis une sportive de salon. C'est ça qui se passe avec moi. Faut tout m'expliquer les règles tout le temps, mais une fois que j'ai compris, je suis bien investie. J'aime le spectacle, en fait. Je comprends le petit frisson là à l'évocation de Sitius, Altius, Fortius, donc plus vite, plus haut, plus fort. Toutes ces performances sportives qui carburent au dépassement. Je suis pas une hater, là. J'ai grandi aussi avec des gars. T'sais, mon père, il adore le soccer. Mes deux demi-frères, ils jouent au football. J'ai toujours fréquenté des gars sportifs. Puis, tu sais, par la force des choses, je finis par m'y intéresser au sport. Sauf que la fille engagée en moi, même si elle reste admirative des performances en général, elle peut pas s'empêcher d'être distraite par les affaires moins belles que le sport a à offrir. T'sais, le dopage, par exemple, le culte de la performance qui a un sale côté, notamment sur la santé mentale des athlètes, la précarité de ces derniers, t'sais, qu'on croit en général vraiment fucking riche, alors que non, c'est un sacrifice à bien des égards, autant pour la famille, autant que pour l'athlète. Et ce, même après aussi, même si on a une carrière couronnée de succès, ça veut pas dire qu'on va avoir un compte de banque en conséquence. Le sexisme aussi, évidemment, dans le sport. Les agressions sexuelles, inévitables, avec tous les scandales aussi qu'on entend ces temps-ci. Donc, une espèce de MeToo, finalement, qui rejoint, qui atteint le milieu du sport. Les disparités de traitement de salaire entre les femmes, les hommes. Puis, évidemment, le racisme. OK? Donc, des histoires de joueurs de soccer européens qui se font lancer des bananes en passant par le cri du cœur de la tenniswoman québécoise Françoise Abanda. Il me semble qu'il y a des histoires qui font frémir puis qui nous rappellent à quel point le milieu du sport a encore du chemin à faire dans la lutte pour l'égalité. Là, je suis contente parce que là, je veux pas passer là sur mes préjugés. Je suis contente que pour m'aider à faire le point sur tout ça, je reçois un invité fort spécial à la feuille de route assez impressionnante qui a généreusement aussi accepté de se confier sur sa propre expérience. Donc, c'est des roulements de tambour un peu cheap pour un invité de marque. Applaudissements pour Georges Larac.
Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'invité.
Hey Georges! Salut!
Salut Vanessa, comment ça va?
Ça va super bien, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment le fun de te recevoir.
Merci de l'accueil.
Yes! Écoute, écoutez, pour les auditeurs, Georges Larac, en bref, là, je pense pas qu'il y a besoin de présentation, mais quand même, on sait vivre ici, on va les faire pareil. Georges Larac, en bref, c'est 13 ans dans la LNH, donc la Ligue nationale de hockey, 695 parties, y compris 57 dans les séries éliminatoires. Il a participé à deux reprises au final de la Coupe Stanley, une fois avec les Penguins de Pittsburgh en 2008 et une autre avec les Oilers de Edmonton en 2006. Georges Larac, c'est aussi de l'implication sociale à différents niveaux, auprès notamment de la cause pour les animaux. Donc, on te sait vegan depuis 2009 et tu milites sur toutes les tribunes. Et d'ailleurs, tu as ça en commun avec Dalila Awada, qui elle aussi est une fière défendresse du droit des animaux. Également, tu es impliquée là, pour les malades atteints de la maladie de Parkinson. Tu es avec l'hôpital des Shriners aussi. Donc, quand même! Et en plus de ça, ben tu fais des conférences un peu partout et tu as également une carrière assez fructueuse dans les médias, notamment à 91.9 Sport. Je l'étudie comme du monde.
Parfait,
yes! Puis merci, bon, encore une fois, d'être là avec nous. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que c'est un sujet comme qui est assez délicat, tu sais, le racisme dans le sport. Il y a, moi, j'ai l'impression, puis là, corrige-moi si je me trompe, qu'il y a une espèce de culture du silence dans le milieu du sport. Dépendamment du sport que l'on fait, évidemment, mais en général, il me semble que le sport, ça reste quand même assez opaque lorsqu'il est question des enjeux sociaux.
Bien, ça dépend, encore une fois, de quoi qu'on parle. Du côté, pour le racisme, il n'y a pas de culture de silence là-dedans. Les gens qui, les athlètes qui se font, qui se font vraiment insulter, tu sais, des insultes raciales, ils se cachent pas. C'est sûr qu'il est arrivé quelque chose qu'un athlète a attendu 10 ans de le sortir. C'est différent parce qu'il y a pas personne dans la Ligue nationale, il était dans les rangs mineurs, puis il s'est fait reléguer dans un rang encore plus bas que le rang mineur, donc il pensait qu'il allait pas être cru. Mmh. Donc il avait rien dit. Mais normalement, on le voit dans tous les sports professionnels, quand un athlète noir qui évolue dans le plus haut niveau, quel que soit le sport, subit un traitement racial, il dénonce automatiquement. Mmh. Il y a d'autres traitements que c'est plus, il y avait comme plus une loi de silence avant, parce qu'avant on disait que ce qui se passe dans la chambre, ça reste dans la chambre.
Ouais.
Mais du côté, pour les propos racistes, il n'y a rien qui reste dans la chambre. C'est toujours dénoncé. Les joueurs vont jamais rester silencieux avec ça. Il y a tellement de témoins avec ça, d'autres joueurs qui sont ça, qui s'ils sont témoins de ça, ils diraient quelque chose. Alors, au moins, les gens sont capables de comprendre au moins qu'il y a une différence entre de l'abus physique, psychologique, mais des abus raciaux, ça, c'est quelque chose qui, l'impact que ça a, puis c'est sûr que les joueurs en général, les joueurs qui sont pas noirs, vont pas ou des immigrés qui vont se faire traiter de propos raciaux, ils vont pas comprendre, les gens qui sont blancs vont pas comprendre l'impact que ça peut nous donner, mais ils savent que c'est un autre niveau, que c'est quelque chose qui est intolérable, puis qui a pas sa place, puis c'est pour ça que la Ligue nationale, depuis plusieurs années déjà, ils ont instauré des suspensions pour les joueurs qui utiliseraient de tels propos envers d'autres joueurs.
Mm-hmm. Puis là, cette libération de la prise de parole un peu, tu sais, je sais que tu dis que là, ça se passe, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que si je reviens à toi-même, ton expérience, toi, t'es né à Montréal, t'as grandi à Sorel-Tracy, t'as été confronté au racisme dès que t'es arrivé, dès que t'as changé de ville. Puis ça s'est manifesté quand t'as commencé aussi à t'impliquer dans ta carrière sportive. Parce que toi, tu viens d'un milieu où est-ce que quand même c'était assez célébré, t'as fait plein de sports, tu jouais au soccer, tu faisais du patinage artistique aussi avant de te lancer dans le hockey à proprement parler. Et tout de suite, quand t'as commencé à être sur les patins, dans la patinoire, t'as subi du racisme.
Dans le hockey mineur, c'est différent parce que... Tu sais, là, tantôt quand je parlais plus professionnellement.
D'accord, okay.
Parce que je savais pas que tu parlais dans tous les niveaux.
Ouais.
Oui, dans le hockey mineur à Sorel-Tracy, c'était épouvantable. Je me faisais tellement traiter du N-word, comme on dit, que en me regardant jouer, tu pouvais penser que c'était mon nom, tellement que les gens criaient ça après moi. Et c'est sûr que tout dépendant où ce que tu grandis aussi, c'est différent. Quand tu parles de mes parents qui ont immigré d'Haïti à Montréal à l'âge de 20 ans, que mon père a travaillé au pot de métallique à Sorel, ben à Tracy, on était une des seules familles noires. Il y avait juste 2 familles noires à Tracy. Et j'ai choisi de jouer au hockey où il n'y avait pas de noirs qui jouaient au hockey. Donc, le nombre de noms que j'ai dû subir quand j'étais jeune, puis, tu sais, il y avait même pas à le dénoncer. Tout le monde le savait. Tout le monde l'entendait. Tout le monde était témoin de ça. Mais personne ne faisait rien. C'était ça. La culture était comme ça. Tu sais, je veux dire, les parents étaient comme ça. Mes parents, ils n'allaient même plus voir les matchs parce qu'il y avait trop de racisme dans les estrades. Puis, c'était rendu trop. C'était trop néfaste pour eux d'aller à l'aréna parce qu'ils se disaient, c'est pas un environnement pour un enfant de jouer là-dedans. Mais moi, pour mon amour pour le sport, parce que je voulais leur prouver qu'il y avait tort, je voulais pas abandonner. Mais il y en a beaucoup qui, à travers ça, qui lâchent, qui abandonnent parce que c'est épouvantable. À 7-8 ans, t'as rien fait, là. Tu grandis, puis tu vois la haine des gens juste à cause de ta couleur qui t'insulte. C'était fou, là. Ça n'avait aucun sens, là, tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. Puis pendant des années, toutes mes années à Sorel, il n'y a pas une année que j'ai pas eu la paix par rapport à ça. Mais c'est ce qui m'a rendu la personne plus forte que je suis aujourd'hui. Puis aujourd'hui, dans l'hockey mineur, il y a encore du racisme. Il y en a encore. C'est parce que...
Never forget Jonathan Diaby, là.
Oui, c'est parce que dans l'hockey mineur, c'est pas comme dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, il y a des mesures disciplinaires. Tu peux avoir une amende, tu peux être banni à vie, mais dans l'hockey mineur, il y a rien. Tu peux rien faire. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu tellement de lettres. Après l'épisode de Nathan Diaby, j'ai reçu tellement de lettres de parents que leur enfant dans l'hockey mineur a subi encore des traitements racistes par rapport à des personnes dans les estrades, des autres équipes, des coachs adverses. C'est incroyable. Là. On est encore en 2019 d'entendre que ça se passe encore. C'est sûr que c'est moins peu que dans mon temps, mais encore des personnes ignorantes qui vont essayer de trouver de toutes les façons de montrer leur frustration. Parce que souvent, les gens qui émettent des propos racistes envers les Noirs, mais c'est parce que les Noirs qu'on est connus pour notre athlétisme, souvent, c'est les meilleurs joueurs. Mm. C'est les joueurs qui ressortent le plus, puis ça les énerve. Donc souvent, pour les déconcentrer, ou quelle que soit la raison, puis il n'y a pas de raison de vouloir faire ça, les gens vont émettre des propos comme ça pour peut-être se sentir mieux, pour les dénigrer. Je suis jaloux que leur fils n'est pas aussi bon, je peux pas connaître toutes les raisons, mais c'est déplorable qu'on en a encore aujourd'hui.
Puis pour la petite histoire, là, pour rappeler toute cette saga de Jonathan Diaby, parce qu'on a des gens qui nous écoutent au Québec, mais aussi à l'extérieur, même du Québec jusqu'à Vancouver, notre podcast est assez populaire pour ça. Jonathan Diaby, c'est un joueur, en fait, qui est dans une ligue de hockey mineure. Et
semi-pro.
Semi-pro, pardon.
Semi-pro de Montréal.
Moi, encore une fois, je traduis toute mon inculture sportive.
Non, mais c'est correct, c'est
tristesse.
Correct.
Donc, qui, l'année passée, en fait, pendant un match à Saint-Jérôme, s'est fait insulter par la foule, par les supporters de l'équipe adverse. Sa famille, qui était dans les gradins, qui était venue assister au match également, se sont fait attaquer par la foule. Lui, il avait une copine blanche, ses parents étaient noirs. Donc, même la fille se faisait insulter. Tu sais, pourquoi tu sors avec un noir? Nanana. Donc, vraiment des attaques vicieuses qui ont été filmées. Et c'est pour ça qu'il y a eu un outrage, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment une espèce de mouvement de soutien envers ce joueur-là. Il a été à Tout le monde en parle, notamment. Il a donné des entrevues dans les médias. Une chance que ça a été filmé parce qu'on a pu voir l'ampleur de la violence qui a eu lieu ce soir-là dans les gradins. Et c'est immonde. Donc, pour ceux qui n'ont pas été voir l'histoire, tapez son nom, Jonathan Diaby, allez regarder ça. Là, c'est de quoi... C'est révoltant. Vraiment, là, c'est le mot là, qui me vient à l'esprit. Révoltant. Et ça, c'est seulement une portion qui a été filmée, parce que Jonathan Diaby, c'était pas la première fois qu'il était confronté au racisme. D'ailleurs, plus tôt cette année, donc un an plus tard après les faits, il y a encore eu un incident où est-ce qu'il a reçu des insultes racistes de la part des gens dans les gradins. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, tu parlais tout à l'heure, Georges, des joueurs. Tu sais, mettons dans la Ligue nationale, il y a des sanctions pour les joueurs. Mais pour les spectateurs, les gens qui sont dans les gradins, les gens qui insultent Piqué Subban ou son frère, par exemple, il n'y a pas de conséquences pour ces gens-là.
Maintenant, il y en a.
Maintenant,
si une personne dans les estrades émet des propos comme ça, se fait expulser. Et même que peut être banni à vie des arénas. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus sévère. La Ligue nationale, par exemple, c'est différent parce qu'il y a beaucoup d'agents de sécurité. Tu sais, tu regardes le hockey mineur, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'agents de sécurité. C'est les parents qui sont assis qui sont là.
Ouais.
Souvent, les parents qui sont assis qui sont là, ils regardent leur enfant jouer. Ils veulent pas se mêler de ça. Ils veulent pas embarquer là-dedans parce que les parents qui émettent des propos racistes avec beaucoup de haine, souvent, les parents ont ça fait peur. Les parents ont peur. Ils veulent pas embarquer là-dedans. Parce que si le gars est capable de crier des propos racistes envers un gars, mais qu'est-ce qu'il va faire si j'interviens?
Ouais.
Fait que les gens ont peur. T'sais, maintenant, aujourd'hui, dans une société, les gens peuvent sortir un coup de couteau, puis manger un coup de poing, puis finir à l'hôpital. Les gens, souvent, ils aiment rester à l'écart de ça. Mais la meilleure chose, ce qui parle le plus fort, c'est de filmer. L'affaire qui est bien, c'est que les gens, quand il se passe des choses comme ça, ils filment. Puis moi, je sais pas, là, mais si une personne qui aime les propos racistes qui se fait filmer, puis qui a une job, c'est que le message que t'envoies, tu peux perdre ta job, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent arriver par rapport à ça, puis ça, ça parle encore plus fort.
Mm-hmm.
Mais au moins, dans les ligues professionnelles, maintenant, on l'a compris ça, parce que il y a des gens qui viennent de tous les milieux qui supportent des équipes sportives qui sont dans les estrades. Donc, maintenant, il y a des mesures là-dessus. Si tu veux mettre des propos quand tu es dans les estrades, les fans vont avertir le placier qui va aller chercher la sécurité qui vont sortir de l'aréna ou des stades où ce que tu es.
Ouais, parce que tu sais, on regarde l'histoire de Jonathan Diaby, justement ça a été filmé, puis il y avait des gardiens en fait dans les gradins, puis personne n'est intervenu. Encore une fois, c'est comme toi.
Non.
C'est toi genre 20 ans plus tôt à Sorel-Tracy quand personne intervenait dans les gradins, tu sais. Qu'est-ce qui a changé?
Mais tu sais, dans le temps de Diaby, il y avait juste deux gardes de sécurité. Puis eux, étant donné qu'il y avait tellement... Puis ce qu'ils ont dit, c'est qu'étant donné parce qu'il y avait tellement de personnes, il y avait tellement une foule qui démontrait de l'agressivité,
ouais.
Que je pense qu'il y avait plus peur. Puis ce qu'ils ont fait, ils ont juste séparé. C'est un peu ridicule. Il aurait fallu qu'ils mettent le monde dehors, mais il y avait beaucoup de monde à mettre dehors. Puis est-ce que ça aurait été hors contrôle? C'est pour ça. Donc, c'était compliqué là maintenant.
Finalement, c'est la famille, en fait, qui a quitté. La famille,
exactement.
Les joueurs, tu sais, ça, c'est
Ah non, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que là, cette année, maintenant, la Ligue, ils ont dit comme quoi que maintenant, les fautifs seraient expulsés. Là, maintenant, la sécurité doit être vraiment plus sévère par rapport à ça pour empêcher que ça se produise encore. Mais il y a des ligues que ça va être plus difficile que d'autres de pouvoir faire le travail parce que ça coûte cher avoir beaucoup de sécurité pour être capable de garder en place une discipline très, très sévère pour être capable d'expulser les gens qui vont mettre des propos comme ça. Mais tu sais, c'est malheureux, c'est plate qu'en 2019, c'est comme ça, puis en 2020, ça va continuer, il va en avoir encore. Tu peux pas vraiment tout bloquer, tout arrêter, surtout dans le sport du hockey qui est considéré comme un sport de blanc.
Mm.
Mais tu sais, on le sait. Puis c'est pour ça que quand je fais des conférences, souvent, quand je parle des jeunes minorités, tu sais, qui ont rêve de jouer au hockey, je les encourage de jouer quand même, puis de faire fi aux racistes qu'ils peuvent des fois vivre parce que c'est impossible. Va voir n'importe quel jeune joueur noir qui a joué au hockey ou qui va jouer au hockey. Ils ont tous subi des propos racistes. Tu peux pas en avoir subi, ça se peut pas. Tu vis dans une société qui en a, il va toujours en avoir pendant un bon bout de temps parce qu'il y a des gens ignorants encore aujourd'hui qui pèsent pas leurs mots, puis qui sont ignorants, puis qui, par jalousie ou pour plein de raisons, vont continuer d'utiliser de tels propos.
C'est juste méchant. C'est juste, tu sais, ces gens-là savent que leurs propos n'ont pas rapport, puis ils savent la menace. Tu parlais du fait que, maintenant, c'est filmé, fait que, tu sais, les gens, ils ont des emplois, ils font attention, mais non, même en sachant que qu'ils peuvent être filmés, les personnes s'empêchent pas d'être racistes. T'sais, on dirait que c'est toujours l'arme qu'on a sur un joueur noir, tu sais, de toujours le ramener à son identité. Pour essayer de le déconcentrer, pour essayer de lui faire mal, pour essayer de lui faire souffrir. On n'essaye pas de faire souffrir les joueurs blancs de cette façon-là.
Ouais.
On n'insulte pas les joueurs blancs. T'sais, oui, des fois, dans un match, je peux comprendre que les gens ils perdent patience, puis comme tout le monde s'excite, puis là, the stakes are high, puis on dit un peu n'importe quoi à travers son chapeau. Je peux comprendre ça. Mais les joueurs noirs sont constamment ramenés à leur identité. Nègres, babouins, ouhaha, des bruits de singes, des bananes lancées. Sur la pelouse, quand on parle du soccer, par exemple, en Europe, il y a quelque chose de fucké là-dedans, tu sais. Il y a un milieu, il y a une hostilité, en fait, qui nous dit qu'on n'est pas les bienvenus, tu sais.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on pourra jamais l'être à 100%.
Non, mais, tu sais, le soccer européen, il y a des endroits, c'est encore pire, là. C'est encore pire que le hockey parce que là, c'est même dangereux. Il y a des endroits, il y a des joueurs noirs qui ont dû être escortés par la sécurité parce que il y a des fans, c'est ancré dans leur culture d'être raciste. Donc, puis on parle dans des stades qui a 100 000 personnes. Fait que ça, quand un mouvement comme ça commence, pis ça vient pas juste d'une personne. Souvent, dans le hockey, c'est un, deux fans qu'on parle. C'est facile de les expulser.
Mm-hmm.
Au soccer, faut que tu fasses attention. C'est pour ça que c'est fou, tout dépendant de le sport. Puis, tu sais, tout dépendant de le sport que tu fais, tu sais, en Italie, il y a des milieux, c'est très raciste en Italie. Là,
si on pense à Mario Balotelli.
Puis Balotelli, ce qui est fou là-dedans, c'est qu'il était adopté par une famille italienne.
Ouais.
Ils ont adopté un noir qui italien parce qu'il était adopté puis il parle parfaitement l'Italie, mais il y a des gens en Italie, même s'il jouait pour l'équipe nationale, c'est un élément marqueur, il était tellement raciste parce que même s'il est reconnu comme un Italien parce qu'il était adopté, non, il a la couleur noire puis il acceptait pas que le meilleur joueur, le meilleur buteur d'équipe d'Italie, c'était un noir. Donc, il vivait des propos racistes dans son pays où ce qui était adopté. C'est juste montrer à quel point que des gens ignorants, c'est là qu'on voit que c'est des petites personnes. Il y en a qui se gênent pas, mais de l'autre côté, c'est bon de dénoncer, de les montrer, mais tu peux pas te laisser abattre par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, les immigrés qui réussissent dans le sport professionnel, c'est du monde qui sont forts de caractère parce que c'est déjà assez dur de percer dans le monde professionnel. T'as moins d'1% des chances de percer dans le monde professionnel de faire un sport pour vivre quand t'es jeune. Mais par-dessus ça, non seulement les immigrés doivent battre prendre la place de quelqu'un pour réussir, mais en plus, tu dois faire fi du racisme. Ça, c'est un obstacle de plus que tu as, que toutes les autres personnes n'ont pas. T'es un blanc, tu joues au hockey, ton seul obstacle, c'est d'être le meilleur pour réussir. Quand t'es un immigré, t'en as deux obstacles. Puis des fois, le deuxième obstacle que t'as qui est pas fair, fait en sorte que t'es plus fort de caractère pour réussir le premier obstacle de te battre avec quelqu'un pour avoir sa place. C'est pas un avantage, c'est sûr, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Mais il y a beaucoup d'immigrés qui lâchent à cause de ça, puis ils disent « c'était pas pour moi ». Trop de racistes, ceux qui ont arrêté.
Parce qu'à un moment donné, tu sais, oui, il faut, ça développe la force de caractère, mais à quel point? On a parlé de sanctions. Par contre, on n'a pas parlé du soutien psychologique ou du soutien en général pour les joueurs. Tu sais, l'accompagnement pour cette violence-là que tu subis au quotidien, c'est pesant à un moment donné sur la santé mentale des individus.
Ouais.
Le fait d'être confronté au racisme comme ça constamment, dès que tu mets les pieds sur la patinoire, dans un contexte de stress, à un moment donné, je peux comprendre que ton cerveau, il lâche, là. T'sais, que tu pètes une fuse, là. Puis à un moment donné, je me demande, est-ce que ça peut pas conduire vraiment comme à une dépression ou à quelque chose comme ça? T'sais, au niveau de la fragilité de la santé mentale.
Il y en a à qui c'est arrivé, il y en a beaucoup. Puis il y en a que je connais, que j'ai joué avec, qui étaient noirs, qui ont arrêté de jouer carrément à cause de ça.
Ça rend malade.
Il y a même des amis que j'ai eus, des immigrés, qui disaient, pourquoi tu continues à jouer? T'es fou, tu vas jamais réussir. Pourquoi tu subis ça? Pourquoi que... Tu prends ça, puis j'ai dit, je vais réussir.
Ouais, toi.
Même un moment donné, il me disait, ça n'a pas de bon sens. La seule façon que ça vaut la peine que tu continues, c'est si tu joues dans la Ligue nationale. J'ai dit, justement, je vais jouer dans la Ligue nationale. Mais tu sais, quand tu dis ça, puis t'as 12 ans, t'as 13 ans, t'as 14 ans, tu sais, j'envoyais des ondes positives, puis je le savais, je me disais, non, je vais réussir. Puis c'est drôle parce que plus tard, quand j'ai appris, tu sais, The Secret, quand c'est sorti, depuis que j'ai 7 ans, je pense comme ça. Sans le savoir, je savais que depuis que j'ai 7 ans, faut que j'envoie à l'univers des ondes positives puis dire je vais réussir quelque chose puis de bloquer les ondes négatives. Je le fais depuis j'ai 7 ans. Personne qui m'a dit faire ça parce que mes parents même me disaient d'arrêter de jouer au hockey. Fait que c'est pour ça que même mes amis, quand je subissais le racisme puis me voyaient puis eux, ils arrêtaient. Je disais non, tu vas voir, je vais réussir quand même.
Ouais.
Puis c'est comme ça que je pensais.
Puis toi,
mais je suis
idole,
confiant.
Hein?
Ouais, ben c'est ça qui ça m'a sauvé énormément.
C'est Jackie Robinson qui t'a servi d'inspiration, premier joueur noir à faire partie d'une ligue majeure de baseball.
Ouais.
C'est ce qui t'a permis de t'accrocher à ton rêve. Parle-moi un peu de l'impact de la carrière de Jackie Robinson sur la tienne.
C'est parce que quand t'es jeune, t'es un enfant, t'as 7-8 ans, puis tu vis du racisme à tous les jours, puis tes parents te disent OK. Je peux plus aller te voir jouer dans le hockey mineur. Il y a trop de racisme dans les estrades. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas se battre avec tous les parents. Puis, si tu veux vraiment jouer au hockey, on va te laisser jouer au hockey. Mais si on voit que ça commence à t'affecter, on t'enlève.
Mm.
Fait que ça veut dire que quand je me faisais traiter de tous les noms, puis j'arrivais à la maison, je ne pouvais pas parler à personne. Parce que si je montais que ça m'affectait, il me sortait du hockey. Fait que souvent, je pleurais en silence. Je pleurais dans mon oreiller. Personne ne le voyait parce qu'il fallait pas que ma mère me voie. Parce que s'il voyait, moi, je disais que ça m'affectait pas. C'est pas vrai que ça m'affectait pas, mais ça m'affectait, mais je voulais rester ici. S'il m'empêche de jouer au hockey, je peux plus, là, mon rêve est fini. Alors, quand t'es tout seul, à un moment donné, puis tu te dis, OK, là, ça n'a pas de bon sens, je pense que j'avais 10 ans à peu près, puis là, c'est vraiment, parce que plus je vieillissais, plus que les mots, plus que tu les comprends, plus qu'ils t'affectent. Quand t'as 7 ans, c'est pas pareil. Mais là, quand tu vieillis de plus en plus, tu connais ces mots-là, ce que ça veut dire, tu sais, la définition, puis ça fait plus mal. Puis par coïncidence, j'ai tombé sur un livre que ma sœur, elle avait la collection de Grolier qui montrait des personnes qui ont marqué la planète de plein de façons. Tu sais, Jaben Franklin, Joanne Arc, plein de personnes comme ça, même Maurice Richard. Puis il y en a une, c'était sur Jackie Robinson.
Number 42!
Oui, exactement. Puis quand j'ai lu le livre, puis c'est une version faite pour enfants avec des images, puis il expliquait comme quoi, quand il était jeune, un peu comme moi, par quoi il avait passé au travers pour s'en aller à la Ligue majeure. Puis quand j'ai lu ce livre-là, tout arrive pour une raison, je me suis vu à travers ça. Puis mon cheminement, quand j'étais jeune, était exactement le même que le sien, sauf que j'étais encore dans les mineurs, lui, il était dans le besoin majeur quand ça s'est arrivé, quand son livre, quand il a fait son autobiographie. Mais je me suis dit, OK, Jackie, s'il a passé par là, je peux le faire aussi. Il a fait exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Puis là, c'est comme ça que je l'ai normalisé. Je me suis dit, OK, en ce moment, Jackie, ça a été le premier noir. Puis dans la Ligue nationale, il n'y a pas beaucoup de noirs. Fait que je me suis dit, je vais percer la Ligue nationale comme Jackie a fait dans le baseball. Puis j'écris une autobiographie un jour, comme Jackie a fait, pour inspirer d'autres jeunes minorités parce que son livre a un impact sur moi. Donc, je peux écrire un livre qui va avoir un impact sur d'autres minorités. Puis les deux affaires sont arrivées. Je me suis mis ça dans ma tête que j'allais faire, je l'ai fait. Et c'est là qu'on voit que tout arrive pour une raison dans la vie. J'envoyais des ondes positives. J'avais besoin d'un push, de quelque chose pour pas lâcher parce que des fois, c'était difficile. Mais quand j'ai lu ce livre-là après, j'ai plus jamais pensé à lâcher. C'était pour moi l'événement déclencheur qui a fait en sorte que là, maintenant, les insultes, au lieu de me rabattre puis de pleurer, Je faisais, à chaque fois que quelqu'un me traitait de nom, puis là, je travaillais encore plus fort, puis dans ma tête, je me disais, tu vas voir un jour, tu vas voir un jour.
Mais est-ce que tu leur répondais à ces personnes-là? Est-ce que tu les confrontais?
Non, je pouvais pas, parce qu'il y avait trop de personnes. C'était tout le monde. J'avais 10 ans, c'était tout le monde dans les estrades. C'était des adultes, c'était des parents.
Mais tu penses
c'était des parents. Je pouvais rien faire. C'était tous les joueurs de l'autre équipe qui frappaient sur la bande, qui m'appelaient Diane Wood. Je pouvais pas.
Tu penses pas que si t'avais levé la voix une fois, les gens auraient pris ton parti en faisant, hey, c'est vrai que ça va trop loin, non?
Non, c'était impossible. C'était tous les parents. Puis si j'aurais dit quoi que ce soit, je m'aurais battu, mes parents l'auraient su, m'auraient enlevé du hockey. Je vais rien faire. Il fallait que je fasse comme si ça m'affectait pas. Parce que, d'un côté, si quelqu'un t'insulte, tu montres que ça, tu réagis, il va augmenter. Ça va regarde, comme Jonathan Diaby, ils ont répondu, puis ça a fait une émeute, il a failli avoir une bagarre. Moi, j'étais tout seul, j'ai pas de parents, je suis tout seul, là, je suis un mineur, là, je peux rien faire, c'est des parents. Si je dis quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Si je vais me faire attaquer, je faisais comme si j'entendais pas. Sauf que quand j'ai eu le livre de Jack Robinson, ce que je faisais, je disais, vous allez voir, vous allez voir. J'y riais quasiment, parce que j'étais là, comme Jackie. Tu sais, c'était comme ma motivation. Je disais, il faut que je réussisse encore plus. Parce que quand j'ai réussi, j'ai passé en Ligue nationale, j'ai remercié tous mes dénigreurs, puis j'ai dit, vous m'avez donné la force nécessaire additionnelle pour me rendre là, parce que le hockey a jamais été mon sport préféré. C'était toujours été le soccer. Mais avec le racisme que j'ai passé au travers, si j'abandonnais le hockey pour jouer un sport qui avait plus d'afro-américains, je serais pas devenu un exemple pour d'autres minorités. Je voulais être un exemple, écrire un livre comme Jackie. Ouais, exactement.
Sérieusement.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je pense à ça, puis pensent que le hockey est son sport préféré, je dis même pas. Mais c'est parce que j'aurais vécu le racisme pour rien si j'aurais fait un autre sport, puis les gens auraient gagné.
Fait que je suis resté là-dedans. On peut dire que ta carrière est due au fait complètement que t'étais dessus.
Exactement. Okay. Ouais, c'est fou de dire ça, mais c'est vrai.
C'est quand même assez fucké. Ouais. Tu penses, justement, parlant du soccer, est-ce que tu penses que ton traitement aurait été différent?
Ben oui. Ben oui,
le soccer, c'est quand même pas...
Parce que j'avais trois choix quand j'avais 15 ans. Soccer, football américain ou le hockey.
Football américain, choix tout naturel pour beaucoup de Noirs. Mes deux demi-frères, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, jouent au football, puis ça avait pas été le football. Ça aurait été la course. Où ça aurait été le basket. Hein? C'est là qu'on nous voit.
Oui, non, mais exactement. Puis j'aurais pas vécu le racisme là-dedans.
Jamais, c'est une patinoire.
Exactement. Non, c'est pour ça. Puis je le savais. Mais moi, c'était comme. J'avais une mission de jeunesse quand les gens commençaient à me dénigrer. Puis c'était de leur prouver qu'il allait avoir tort, qu'il avait tort. Fait que j'ai choisi. Puis c'est là que tu vois le pouvoir de la tête. Oui, exactement. Quand tu décides de mettre un but, moi, j'ai choisi le hockey. Puis je savais là, que les autres sports, le football, j'ai joué pour Danny Machocha. Danny Machocha me disait, Georges, t'as un avenir assuré.
Faut que tu m'expliques qui, là.
Danny Machocha. OK, Danny Machocha, présentement, il coach les Carabins. Mais il a coaché les Canadiens de football.
Okay.
Et, tu sais, lui, c'est un gars reconnu dans le football. Puis, j'ai joué pour lui avec les Cougars de Saint-Léonard, midget 3. Puis, il me disait, puis là, j'avais une décision à prendre entre jouer au football ou au hockey. Puis, Danny Machocha, il me disait, Georges, tu vas jamais réussir dans le hockey. Il faut que tu restes dans le football. Tu as un avenir assuré dans le football.
Parce que tout le monde en est conscient dans le milieu, right? C'est pas juste toi. Tout le monde sait qu'il y a une culture de marde qui vise les joueurs noirs, right? Ouais. Excuse-moi mon langage, non, mais on va se dire, c'est vraiment ça.
Ouais, pis,
les gens essayaient de te protéger, puis toi...
Mais j'étais vraiment bon au football. J'étais running back, puis je faisais plein de touchés. Je passais à travers les joueurs, puis ils me disaient, tu as un avenir assuré là-dedans. Puis je disais, Danny, non, je vais aller dans le hockey. Il dit, tu vas pas réussir. Puis quand j'ai réussi en Ligue nationale, c'est fou la vie parce que le gars, il a coaché les Eskimos dans la Ligue canadienne d'Edmonton. J'ai joué avec l'Arlis d'Edmonton, j'étais repêché par en 95. J'ai été le voir quand il coachait les Eskimos. J'ai dit, t'en souviens-tu? Quand j'avais 15 ans, j'ai été le voir. Tu m'as dit, je réussirais jamais dans le hockey. Puis il est parti à rire. Il m'a dit, je savais que tu allais venir me voir. Oui, je m'en souviens. Je suis content que tu as pris la bonne décision. C'est fou, là, la vie, là, comment ça nous a rejoint plus tard, puis il coachait dans la CFL, des Cougars de Saint-Léonard à la CFL dans le niveau professionnel. Puis moi, j'étais avec les Oilers d'Edmonton. On est dans la Melville, puis on parle de ça. Mais, tu sais, c'est comme, je suis content qu'il ait réussi, puis sa carrière d'entraîneur, elle a continué, puis moi, dans une ascension, elle a continué aussi.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
T'as-tu été heureux à travers ça? Parce que là, looking back sur toute ta carrière, là, t'es fier, t'es content. T'as maintenu ton point, tu l'as gagné. Mais pendant toute cette période-là, est-ce que tu étais heureux?
Non, je l'étais pas parce que le rôle que j'ai joué dans la Ligue nationale, c'était pas un rôle que j'étais content de faire. Parce que j'étais un homme fort. Je me battais.
Un goon.
Ouais. Et vu que je me battais, j'aimais pas ça parce que c'était pas moi comme personne.
Est-ce que tu penses que c'est un casting parce que t'étais noir?
Non, pas du tout. C'est juste que quand j'étais, ma puberté, elle m'a frappé. Parce que quand j'étais jeune, j'étais toujours le plus vite de mon équipe, puis celui qui marquait le plus de buts. Mais quand la puberté m'a frappé, je suis devenu plus gros, moins vite. Puis là, je me suis dit, OK, pour un national, il va falloir que j'ajoute quelque chose.
Je suis content que t'en parles parce que, honnêtement, t'es quand même assez baquette, c'est au niveau de la silhouette. Puis j'étais comme, c'est pas nécessairement une silhouette de soccer, ça, là.
Non, pas du tout.
C'est ça, OK.
Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'avec ma carreuse, je savais que pour me donner toutes les chances dans le national, il fallait que je me batte. Donc, je l'ai fait pour jouer dans le national, mais il y a deux choses. Quand tu joues dans le national, puis tu fais quelque chose que t'aimes pas te battre, la première, j'aimais pas ça. Puis la deuxième, tu joues dans le national pour prouver aux gens qu'elle avait tort. Encore une fois, quand je dis que le soccer est mon sport préféré, j'ai pas joué mon sport préféré. J'avais une mission d'inspirer des gens que quand tu as quelque chose en tête que tu veux faire, tu peux le faire. Mais tout au long de ma carrière, le fait que j'ai dû me battre, puis que c'est pas ma personne à l'intérieur, puis j'ai joué un sport que j'ai choisi pour prouver aux gens qu'ils avaient tort, c'est fou, là. Ça m'a montré, oui, côté caractère, ça montre comment j'ai été fort de caractère. J'ai fait quelque chose que plein de personnes pensaient que je pouvais pas le faire, mais d'un autre côté, si je veux dire pleinement que j'étais content, j'étais heureux, non. Parce que, avant tout, je l'ai fait pour les autres et non pour moi.
À quel point c'est lourd, tu sais. Moi, j'ai grandi aussi avec cette culture-là parce que cette espèce de culture de ultra-performance, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on l'a de nos parents immigrants. T'sais, moi, je suis pas une sportive, comme je te dis, mais j'ai grandi avec un père qui me disait, quand un blanc fait 90%, toi, tu dois faire 100%.
C'est vrai, c'est vrai.
Si le blanc fait 100%, toi, tu dois faire
110%. C'est vrai, c'est vrai.
Cette espèce de pression-là, pour avoir la moitié de ce que lui, il a, tu dois faire deux fois plus de travail.
Mais le meilleur exemple de ça, juste que les gens comprennent, c'est que regardez les familles immigrantes, OK? Les gens, là, mettons, là, puis même des gens intolérants du racisme qui nous écoutent en ce moment.
Ouais, qui nous haïssent, là, on a des haters.
Ouais, faites une petite comparaison, OK? Les gens viennent de l'extérieur de d'autres pays à Montréal. Pourquoi? Parce que Montréal, souvent, on cherche des travailleurs, il y a des jobs d'ouverture parce que les gens qui restent ici, il y en a beaucoup, qui préfèrent être sur l'aide sociale que de travailler. Donc, souvent, il y a des compagnies qui ont besoin d'immigrants qui viennent ici pour travailler parce que ici, les gens veulent pas travailler. D'un immigrant qui est dans un autre pays, il veut travailler, il peut pas travailler, il n'y a pas de job, son futur n'est pas assuré qu'il puisse accomplir ses rêves dans son pays ski. Il vient à Montréal pour travailler. D'un immigrant qui vient ici, il n'y a rien. Rien. Il recommence à zéro, il n'y a rien. Puis il y en a plein qui ont du succès aujourd'hui, des chefs d'entreprise qui font beaucoup d'argent puis sont arrivés avec rien. Alors que tu as du monde qui sont nés au Québec, de bonnes familles, système aisé, qui donne tout ce qu'il y a. Puis des fois, ces gens-là chialent parce que l'immigrant a plus réussi que lui, alors que la seule chose qui différencie, c'est le travail. Donc, quand mes parents me disaient la même chose, que l'école, c'est plus important, tu vas pas rester dans le hockey, faut travailler plus fort que le blanc, si ça. Mes parents sont arrivés d'Haïti avec rien. Mon père, il a fini avec 3 maîtrises, super bon job comme ingénieur. C'est fou, là. Puis ma mère aussi, ils sont venus ici avec rien, alors qu'il y a des gens ici qui pourraient tout avoir, mais qui travaillent pas. Donc, je comprends le message émigré qui vont toujours dire à leur enfant de travailler plus fort pour gagner ta place, parce que oui, faut que tu la gagnes, puis oui, c'est plus tough. Puis même quand tu donnes un CV, même si les gens pourront te discriminer à cause de ta race, ils te le disent pas, mais ton CV, s'il est égal à un autre, ils le mettent en dessous de la pile, puis c'est comme ça. Puis en 2019, c'est encore comme ça. Puis ce qu'il y a des compagnies, ce qu'ils sont obligés de faire aujourd'hui, c'est qu'ils mettent des quotas pour avoir des immigrés dans leur job, pour que les gens disent qu'ils sont ouverts à toutes les cultures. Donc, c'est par quota souvent que les immigrés rentrent et non par qualification, parce que pour qualification égale, encore aujourd'hui, on fait du profilage racial, puis on choisit le blanc. Puis c'est comme ça, puis c'est vrai. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont entendre ça aujourd'hui qui seront pas contents.
Qui vont être indignés.
Mais les gens qui sont indignés, c'est toujours les blancs qui savent pas qu'est-ce que les immigrés vivent, doivent passer au travers à tous les jours, puis qui essaient de penser à notre place, mais qui comprennent pas, puis c'est pas eux qui se battent pour leur place, c'est ça la différence. Puis moi, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je vis pas aujourd'hui la même réalité que tous les immigrés, c'est parce que j'ai joué au hockey. Les gens me regardent, j'ai réussi, puis ils me voient pas de la même façon. Puis une des pires insultes que je reçois souvent encore aujourd'hui en 2019, les gens viennent me voir, puis ils disent « Oh, Georges, toi, on t'aime parce que t'es pas comme les autres.
Ah, »
Ça, c'est comme me faire traiter de N-word, c'est la même chose, puis ça me frustre,
toi,
puis ça
bon
me
immigrant.
Choque. parce que je demande aux gens ça, ouais. Les gens me disent ça, puis ils pensent que je prends ça comme un compliment, puis je dis ah oui, merci. C'est la même chose que me traiter de N-word. C'est te montrer à quel point qu'aujourd'hui,
ça
dans la société d'aujourd'hui.
C'est ce que tu penses des Noirs. Ouais,
exactement.
Ça, tu t'en rends pas compte. Mais les gens, il y en a plein qui le font. Avec les autres ethnies aussi.
Oh, exactement.
Ah, mais tu sais, moi, là, les Noirs, là, moi, vous êtes comme nous autres, mais moi, c'est les Arabes. Moi, j'ai rien contre les immigrants, j'ai rien contre les immigrants. Mais les Arabes, là, par contre. Ben, c'est les immigrants,
c'est la même chose.
C'est la même affaire, tu sais, c'est tout le temps de nous mettre en compétition les uns contre les autres à l'intérieur du même groupe ethnique et contre les autres groupes ethniques aussi, ce n'est pas un compliment, non.
Oui, c'est ça. Puis ça arrive encore aujourd'hui que les gens me le demandent, que les gens m'en parlent et ça me choque. Et puis là, les gens, ils s'excusent après, mais oublie ça, le mal est fait, là, mais c'est juste qu'encore aujourd'hui, tu sais, je le vois. Là, que...
Mais là, tu les reprends. La différence aujourd'hui, c'est que maintenant, tu leur dis.
Non, mais maintenant, je peux, en tant qu'adulte, je le fais. Puis là, les gens se sentent tout mal après parce que je me choque puis je le dis. Mais encore aujourd'hui, ça arrive encore que, au moins, facilement, une fois par mois, un épisode comme ça arrive.
Ben, voyons donc. Puis dis-moi, est-ce que, là, on va rentrer dans le un peu plus personnel. Est-ce que tu en as voulu à tes parents de ne pas avoir été là avec toi dans les gradins? Parce qu'à un moment donné, tu étais seule. Tu n'avais pas de réseau. Tu ne pouvais pas te confier à des amis. Tu étais dans une ville aussi qui était un peu hostile à l'époque à la diversité. Donc, ce n'est pas comme si tu avais des amis à l'école avec qui tu pouvais parler du racisme dont tu étais victime sur la patinoire. Est-ce que tu en as voulu de te retrouver à tes parents, de t'avoir laissé là quand même?
Non, parce que je les comprenais. C'est parce que c'était épouvantable pour moi. Puis moi, j'étais sur la glace. Puis mes parents dans les estrades, c'est fou parce que tu fais quoi? Ton jeune a 7 ans, il s'est traité de N-word, des estrades. Tu sais, c'est épouvantable comme atmosphère. Puis je peux juste m'imaginer, tu sais, mon père, il est tellement agressif, il serait allé en prison pour ça. Tu sais, c'est pour ça qu'il savait, puis je comprends aujourd'hui. Tu sais, mon père, aujourd'hui, il est pas allé en prison parce qu'il était pas là, parce qu'il serait battu. Il aurait perdu, là. Oublie ça, il y avait trop de personnes. Fait que je les comprenais. Puis, tu sais, c'est moi... Tu sais, dans ma tête, je me disais, c'est moi qui s'impose, qui se place dans cette situation-là. Puis je voulais pas l'imposer aux autres personnes. Puis dire, oh non, non, les autres, ils devraient le subir aussi. C'était vraiment à moi-même. C'était une mission que je me suis donnée à moi-même. Puis j'étais pas fâché parce que les autres personnes se plaçaient pas dans ce milieu-là. Parce que si j'avais pas réussi, admettons, là. Puis tu sais, je suis convaincu que j'aurais fait autre chose parce que j'ai toujours été quelqu'un fonceur. Mais, tu sais, les gens n'avaient pas à vivre quelque chose à cause de mon rêve. Tu sais, un rêve que tu veux vivre, tu peux pas l'imposer à d'autres. Si j'aurais été frustré, c'est quoi? Mon rêve, qui le vivait? C'est mes parents ou moi? C'est moi. C'est moi qui devais foncer. C'est moi qui devais le montrer aux gens. Puis que mes parents viennent ou pas, ça change rien. Mm. C'est pas eux qui auraient réussi. C'est moi qui devais se réussir. Puis si je voulais réussir quelque chose, tu sais, souvent on se dit, est-ce que t'es juste capable d'accomplir un rêve? D'abord, c'est un support. Si t'as pas de support, t'accomplis pas tes rêves, tu fais rien, tu bouges pas. Si tes parents te supportent pas dans le rêve que tu veux faire, tu changes de rêve. C'est quoi? C'est tes parents qui vont décider, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi tes rêves? Dans quoi ils devraient te supporter. Oublie ça. Tu choisis ce que tu veux faire. Les gens qui embarquent avec toi, ils embarquent sur le canot puis ils rament avec toi. Puis s'ils embarquent pas, tu rames tout seul, mais tu continues à avancer. Puis à un moment donné, tu vas réussir puis tu vas te féliciter pour les efforts que tu as mis.
Est-ce que tu es en colère contre la société?
Non. Non, pas du tout parce que moi, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, un des plus gros problèmes que... Puis j'haïs ça dire ça puis ils vont pas m'entendre ça, mais les immigrés aujourd'hui qui essaient d'avancer dans la vie, quand on vit avec de la colère, on n'avance pas. On le sait qu'il y a du racisme aujourd'hui, mais le race card, si tu utilises ça comme le fait que tu n'avances pas, puis tu as de la frustration, tu ne vas pas avancer. À un moment donné, moi, comment je rationalise ça, puis c'est une façon que je l'ai fait, puis c'est quelque chose d'assez intense, je me dis, OK, oui, encore du racisme aujourd'hui au Québec en 2019, oui, c'est plate. Admettons que je n'ai pas joué au hockey, puis je travaille fort, puis je veux une job, puis je sais que je suis discriminé. Moi, je regarde en Haïti. Quand j'étais en Haïti, j'ai été 4 fois. J'ai été 2 fois quand j'étais jeune, 4 autres fois après la tragédie. J'ai aidé à reconstruire un hôpital qui s'est détruit.
Le tremblement de terre de 2010, oui.
Mes parents sont nés là-bas. J'étais en Haïti quand j'étais jeune 2 fois, puis j'ai vu la pauvreté, c'est quoi? Quand je vais en Haïti, quand j'ai construit l'hôpital, là, les gens ne me demandaient pas juste de l'argent, ils me demandaient une job. Les gens veulent travailler, ils me demandaient une job parce qu'il n'y a pas de job là-bas. Moi, je me dis, OK.
C'est pas des caterers, là.
Non, il y en a qui veulent travailler. Ouais. Ouais. Puis là, moi, je me dis, OK, qu'est-ce que j'aime mieux? Avoir grandi en Haïti, pas avoir toutes les chances d'accomplir mes rêves, peut-être être mort après la tragédie, être entouré des gens qui sont pauvres, qui et puis il y a beaucoup de crimes à cause de ça, ou être au Québec, devoir, OK, me battre un peu avec le raciste, mais si je travaille plus fort que le blanc, que mon voisin, je vais quand même avoir une opportunité quand même. Ici, au Québec, au Canada, t'as une opportunité d'accomplir tes rêves. En Haïti, t'en as pas. Puis c'est ça la grosse différence. Mais je rationalise toujours en disant aux immigrés, au lieu de jouer de race card puis des injustices, t'es venu ici, tes parents sont venus ici pour te donner une meilleure chance de survie que s'ils restent dans leur pays. C'est comme ça que je le rationalise. Ouais. Pas dire que le racisme, c'est correct, c'est pas correct. C'est à dénoncer. C'est à dénoncer. Tu dénonces quand même. Mais toi-même, tu peux pas être frustré contre ta société parce que ça va pas t'aider à avancer. Pour avancer dans la vie, faut enlever la frustration parce que quand tu l'es, c'est l'énergie négative qui t'empêche d'avancer. Puis c'est ça qu'il faut essayer de faire. Quand je parle à des gens qui sont frustrés puis tout ça, puis ils se révoltent, on peut se révolter pour faire des manifestations pendant des jours et des jours.
On peut demander quand même des politiques publiques comme des commissions, par exemple, pour nommer le problème, le chiffrer. Oui, ça, c'est pas exagéré.
Mais oublie pas, ça, c'est correct de faire ça. La seule chose, c'est m'en poser une question. Si je suis frustré contre la société, tu peux demander une commission sans être frustré contre la société.
Absolument.
Tu demandes une commission pour que les choses avancent.
Absolument.
Mais les gens, en général, on s'entend. Quand les gens manifestent, demandent des commissions, c'est qu'ils ont de la frustration puis ont de la misère à avancer à cause de ça. Ils mettent tout le monde dans le même bateau puis ça les aide pas.
En fait, la colère, c'est un outil de mobilisation qui est absolument formidable, mais ça peut pas être une fin en soi. Il faut aller au-delà de ça, basically. Et moi, on jase puis j'ai repensé à une phrase que j'ai vue, je bifurque un peu. C'est sur un joueur allemand qui s'appelle Mesut Özil, je le prononce peut-être mal, Arsenal, Allemagne. Lui, il disait que l'affaire avec les immigrants ou les personnes racisées, c'est que quand tu réussis, quand tu es un modèle de réussite, tu es un des nôtres. Tu es un Québécois, tu es un Allemand. Mais quand tu échoues, on te ramène constamment à ton statut de personne racisée, de personne différente. Puis tu en as glissé un mot tout à l'heure. Puis tu disais, la personne immigrante, ça travaille, ça met des efforts, elle va avoir une opportunité. Mais des fois, c'est pas vrai, ça. Des fois, ce conte de fées-là, se concrétise pas. Il y a des gens qui restent dans la misère qui toute leur vie. Il y a des études, entre autres, qui démontrent que, par exemple, des enfants de deuxième, troisième génération, des gens qui sont nés ici, de parents immigrants ou de grands-parents immigrants, font face aux mêmes obstacles que leurs parents il y a 20, 30 ans de ça. À un moment donné, c'est pas vrai qu'il y a toujours une victoire, même si tu travailles.
Mais de toute façon,
même si t'as tous les...
Mais de toute façon, le meilleur exemple de ça, sans nommer de nom, parce que les gens vont peut-être être capables de lire entre les lignes. Il y a des gens qui ont citoyenneté québécoise, on peut dire, canadien, qui ont eu du succès dans leur sport professionnel, qui ont été cités le Québécois, fièrement Québécois, champion du monde, fièrement Québécois. Et quand il est arrivé des choses négatives dans sa carrière, dans sa vie personnelle, là, on disait fils d'immigrants, puis on donnait le nom du pays. C'est toujours comme ça. N'importe quel immigrant qui réussit, s'il est né au Québec, on va dire Québécois, puis quand il arrive quelque chose, puis il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. J'aime pas les faire parce que j'aime mieux que les gens les voient par eux-mêmes, puis ça devrait venir des personnes mêmes, puis je vais pas ouvrir un débat sur telle à tête, pourquoi ça lève d'autres choses.
Mais c'est pas juste de la tête, c'est des gens dans le milieu de la culture.
Oh, dans le milieu de la culture aussi, il y en a plein. Dans le milieu de la culture, des gens qui ont réussi, puis quand ils réussissent, on aime prendre le crédit, mais quand il arrive quelque chose, là, automatiquement, on amène la nationalité tout de suite là-dedans pour que les gens soient capables de différencier comme si
tous
il n'y a aucun
voyous.
Québécois qui fait... Puis tu sais, je pourrais aller plus loin, là. Tu sais, je veux dire, ça, cette affaire-là, on pourrait parler des nouvelles négatives dans les journaux. Qu'est-ce qu'on montre? Quelle histoire qu'on décide de mettre, la une qu'on décide de montrer? Ça va loin, cette conversation qu'on pourrait avoir sur beaucoup de choses, des choix qui sont faits dans la société, dans les médias, de ce qu'on choisit de montrer au public, de ce qu'on choisit de faire, le message qu'on veut partager. Mais encore une fois, étant donné le savoir, tant qu'à savoir quelque chose, puis à un moment donné, tu y penses, puis tu sais que c'est comme ça, c'est ça que je parlais tantôt de la frustration. Être frustré par rapport à ça, sur quelque chose qu'on peut pas contrôler, on peut dénoncer, mais ça va prendre du temps. On est des années en arrière encore qu'il y a une égalité là-dessus, puis on le sait qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais pourquoi perdre trop d'énergie à faire des démarches qui vont pas avancer, qui vont pas aider? Oui, c'est mieux que c'était il y a 20 ans, puis ça va continuer à s'améliorer trop lentement, mais un peu. Mais en bout de ligne, sois conscient de ce qui se passe encore, travaille plus fort, contrôle ce que tu peux contrôler, essaye de rester positif malgré tout, essaye de rationaliser. Mais c'est comme ça, on peut rien faire.
Est-ce que tu as l'impression aussi qu'on a tendance à gommer les réussites des athlètes noirs? Je prends l'exemple de Françoise Abanda, la joueuse de tennis québécoise qui avait fait beaucoup jaser en mai 2018 quand elle avait affirmé que elle avait dit en anglais « I will never get the same treatment because I am black ». Et elle parlait du fait qu'elle avait réussi à devenir la joueuse de tennis numéro un au pays, détrônant l'espace d'un instant Eugénie Bouchard, ouais, qui avait eu une mauvaise feuille de route cette année-là. Et elle disait que si on parlait pas d'elle, si elle avait pas accès à des commanditaires ou la même visibilité, c'est parce qu'elle était noire. Évidemment, il y a peut-être un peu de ça. On sait que dans les faits, c'est que Françoise Abanda, en général, elle a un following qui est moins important que Eugénie Bouchard, qui est une personnalité assez importante sur les réseaux sociaux, notamment, qui a su utiliser le marketing pour vendre son image, au-delà de son sport, n'est-ce pas?
Oui.
On sait aussi que Françoise Abanda a pas le même niveau. En fait, si elle a pu se rendre à la première place, c'est surtout à cause des déboires d'Eugénie, oui, plutôt que de ses performances à elle. Mais est-ce que tu es d'accord avec la prémisse de base que même quand on performe, même quand on est bon, l'adulation du public, des médias, ne vient pas aussi naturellement que si c'était un blanc qui réalisait les mêmes exploits?
C'est parce que ça dépend du sport. Elle, malheureusement, c'est dans le tennis. Le tennis est considéré comme un sport de blanc. Le hockey est considéré comme un sport de blanc. Donc, c'est pour ça que c'est le sport qui fait en sorte que la culture qui le regarde fait en sorte que les médias qui le couvrent, c'est pas la même chose. Mm. Parce que, tu sais, je veux dire, tu regardes dans tous les sports, tu regardes au Canada, tu sais, je veux dire, dans le football, puis tu sais, le football, on s'entend, c'est plus aux États-Unis, la NFL. Mais ceux qui jouent dans la CFL, je veux dire, c'est pas autant populaire, mais tu sais, tu parlerais même pas de ça si t'aurais un Québécois noir qui aurait du succès là-dedans dans le football, parce que personne ne serait surpris. Mais il y a combien de football, il y a combien de sports international au Canada que tu peux avoir autant de visibilité? Tu sais, quand tu regardes le soccer footer en Europe, tu regardes le football américain, c'est aux États-Unis, tu regardes le baseball, tu sais, le baseball, oui, tu sais, je veux dire, c'est un Québécois qui est noir, que tu succès dans les ligues majeures de baseball, les gens vont en parler parce qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup plus d'émigrés. Fait que c'est juste, puis je vais te dire que elle, c'est parce que c'est dans le tennis, la culture noire, elle est pas reconnue. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que
il y a un problème de rayonnement.
Exactement, c'est pas mal plus pour ça que le fait parce qu'elle était blanche.
D'accord, parce que c'est ça. Puis mais quand même, on doit se réjouir de voir justement qu'est-ce que ça signifie que autant de noirs s'investissent dans des sports qui étaient autrefois dominés par les blancs. T'sais, évidemment, les sœurs Williams au tennis. On a aussi Gabby Douglas, Simone Biles aussi en gymnastique, ouais, des sports
mais
blancs.
Ça, c'est
Misty Copeland au ballet, effectivement, c'est aux
États-Unis.
Mais
tout ça, c'est aux États-Unis, puis c'est différent aux États-Unis. La culture, c'est pas la même chose. Mm-hmm. C'est pas comme au Canada, puis il y a beaucoup d'Afro-Américains dans tous les sports, gymnastique, dans tous les sports que tu as nommés, c'est pas pareil, là, ça se compare pas. Puis, tu sais, je veux dire, aux États-Unis, c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes, fait que c'est pas... Écoute, la culture aux États-Unis, c'est pas comme ici. C'est complètement différent, puis surtout dans les sports d'athlétisme, tu t'attends à voir des Noirs qui dominent. L'athlétiste, on a une génétique qui est incroyable, puis souvent on a un avantage par rapport à ça, puis tu entends beaucoup de choses que la génétique des Noirs, c'est dû au fait que pendant des années avec l'esclavagisme, la génétique, c'est ça, la génétique s'adapte avec le système de travail que t'as pendant des générations. On a travaillé, puis aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup les immigrés, les Noirs, on est hyper actifs. Il faut qu'on bouge parce que si on bouge pas assez, on ne peut pas rester assis à l'école puis étudier, parce que on est comme fait pour bouger, fait pour être actif.
Mais là, moi, je m'inquiète toujours de ces généralisations, parce qu'on sait que ces mêmes études-là qui disent que les Noirs sont super forts sont les études qui disent que les Noirs sont super stupides aussi. Tu sais, on se rappelle tous du Doc Mayou qui avait dit, entre autres, que à cause de l'esclavage, ils restaient seuls, les plus forts avaient survécu parce qu'on tuait les plus intelligents.
Ouais.
Fait qu'on était tous dum-dum, tu sais.
Ouais, sauf qu'on pourrait sortir la liste de toutes les puis là, je sais que l'histoire, c'est pas le show là-dessus qu'on fait aujourd'hui.
Non, mais c'est pas grave.
Mais si on sortait la liste de toutes les personnes noires de l'histoire de l'humanité très intelligentes qui ont marqué la société, là, on pourrait avoir un autre débat là-dessus.
C'est parce qu'on raconte pas leurs histoires, qu'elles n'ont pas existé, ces personnes-là, tu sais, right? On choisit les histoires qu'on veut raconter, on met de l'avant. Les histoires de succès puis de réussite. Puis dis-moi, tu sais, t'as parlé de l'inspiration que t'étais pour des jeunes maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est ça t'arrive, là, d'être sollicité par des jeunes racisés qui t'écrivent pour te dire, genre...
Premièrement, je conférencie, alors, dans des écoles, dans des milieux défavorisés ou des milieux ethniques, je vais parler de ça. Puis je parle pas juste de hockey, je parle pour percer, parce que quand je parle à des immigrés puis je fais des conférences, c'est pour les motiver à foncer à travers leur rêve. Puis on s'entend, 99% des cas, c'est même pas dans le hockey, là. Tu sais, mon histoire, c'est pas de parler aux jeunes de réussir dans le hockey, c'est de percer dans la vie, en dépit du racisme que tu passes au travers. Mm-hmm. De dire comment j'ai fait, de quoi j'ai... Parce que ce que j'ai passé au travers est pire que la majorité des jeunes noirs ou des jeunes immigrés qui, dans la vie de tous les jours, essaient de percer. Parce que j'ai choisi un sport que j'étais le seul noir, puis à tous les jours, je subissais du racisme devant tout le monde. Mm. Il y a des gens, tu sais, qui essaient de passer le monde du travail, qui subissent un, deux incidents, puis sont marqués à vie, là.
Ouais.
Moi, je l'ai eu à tous les jours. Tous les jours. Puis mes parents, ils disaient de pas jouer à ça. Fait que c'est pour ça que quand je compte mon histoire, puis que les gens qui vivent, tu sais, certaines formes de racisme, puis comment j'ai passé au travers, ça les motive, parce qu'après ça, eux, leur histoire, ils la regardent, ils disent, ils se lèvent même plus la main pour m'a compter, parce qu'ils sont comme, oh mon Dieu. Puis ils se disent, oh, mais, sais-tu quoi? Lui aussi, il l'a vécu, puis il a réussi, tu sais, quelque chose, mm-hmm. que les stats sont 0.0001% quand t'es jeune de dire que tu es dans la nationale. C'est très minime. Alors que n'importe quel travail que tu rêves d'accomplir un jour, de faire, tes chances sont bien plus élevées, parce que c'est juste le travail qui te rend là, alors que le hockey, il y a le génétique, il y a la chance, il y a le talent, il y a tellement de choses qui rentrent ensemble qui font en sorte que les chances sont plus basses. Mais quand les gens entendent par quoi j'ai passé au travers, puis après ça, ils se regardent, et après ils se disent « Wow! » Ils utilisent ces outils-là après par la suite, puis ils sont plus motivés, puis on dirait comme ils l'acceptent plus. Comme que je l'ai plus accepté quand j'ai vu ce que Jackie Robinson a passé par là. Mm-hmm. C'est pour ça que quand on parle à des gens, on écoute des gens qui ont du succès, qui ont vécu beaucoup de racisme, ça nous motive parce qu'on se dit « C'est possible! » C'est possible. Il a accompli quelque chose qui est plus dur que ce que je vais accomplir. Puis il a vécu la même chose que moi. On a le même cheminement. Puis ils comprennent. Puis là, après ça, au lieu d'être frustré, oui, ils dénoncent les racistes pareil. Mais au lieu d'être frustré, ils sont comme, ah oh non, je vais leur montrer.
Ouais.
Je vais leur montrer que je suis capable quand même.
Puis dis-moi, est-ce que il y a des gens, là, on parle des gens qui reach out, qui t'écrivent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été méchants avec toi, qui ont été racistes avec toi, qui t'ont écrit pour
s'excuser? Ben ouais. OK, ça, je te jure que c'est vrai. Quand j'ai réussi à passer la Ligue nationale, puis j'ai remercié les gens qui m'ont dénigré, il y a des gens qui m'ont écrit à travers mon site web, qui m'ont dit que je faisais partie de ces jeunes-là qui étaient ignorants, puis je m'excuse de mon comportement, puis je leur pardonnais. Parce que ça ne donne rien à vivre avec de la haine, je les pardonnais. T'sais. Ça prend une personne pour être capable de s'excuser après autant d'années, de pouvoir s'identifier puis de se reconnaître à travers ça. Fait que oui, je les ai pardonnés des traitements que j'ai eus. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens dans les réseaux sociaux qui me traitent encore de N-word, qui créent des comptes puis qui m'envoient des messages pour négatifs quand même.
Ouais.
Je les bloque, c'est tout. Ça me dérange pas. Puis il va falloir qu'ils créent un autre compte pour me réinsulter encore, parce qu'en te bloquant, mais prends ton 5-10 minutes, ça va prendre de créer un email pour créer un compte pour m'insulter. Si tu veux faire ça, c'est des gens qui se cachent à un ordinateur pour le faire, mais en personne, ils le font jamais. Mais c'est pas grave. Je le reconnais aujourd'hui dans la société. Quand t'es une personne, un immigré qui a du succès, ça frustre les gens. Les gens n'aiment pas ça, puis ben pas toutes les gens, certaines personnes, puis ils vont vouloir se défouler à cause de ça. C'est comme ça, je peux rien faire, je peux pas le contrôler, et seule chose que je peux faire, les bloquer, je passe à autre chose, parce qu'il y a beaucoup plus de choses positives dans ma vie aujourd'hui que négatives.
Mmh. Ça t'est arrivé peu importe où t'étais, hein, parce qu'on a parlé de Sorel,
exactement.
On a parlé du Québec, mais si t'as joué à Edmonton, t'as joué à Pittsburgh, puis... Nulle part, tu es à l'abri. Là.
Non, exactement.
Fait que les Québécois, là, capotez pas, là, les auditeurs qui nous écoutent, là, les Québécois sont pas pires que d'autres, n'est-ce pas?
Oui, ouais, non, c'est sûr. Non, okay. Mais attends une minute. À Sorel, c'était le pire. Okay. On s'entend, ouais. Quand j'ai grandi là-bas, il n'y avait rien qui était pire que ça.
Est-ce que tu as du ressentiment maintenant à l'égard de Sorel, comme ta relation avec cette ville-là?
La seule chose, c'est que j'ai été une couple de fois là-bas depuis, une fois pour faire un tournage de ma vie dans le hockey mineur, puis... Une fois pour voir des amis que j'avais là-bas, puis j'aime pas ça aller là-bas.
Non.
Parce que ça, même si c'est de cause, j'essaie de mettre de côté, puis ça fait longtemps, à chaque fois que je vois le nom de Sorel Tracy ou je rentre dans cette ville-là, j'ai un mauvais sentiment.
Sérieux?
Tellement, quand à tous les jours, tu vis du racisme dans une ville, à tous les jours, c'est pas une fois, là, à tous les jours, tu peux pas, j'ai aucun bon souvenir. Tu sais, oui, j'avais des amis là-bas, puis j'étais super populaire, j'étais bon dans les sports, mais le seul souvenir que j'ai de cette ville-là, c'est comment je me faisais traiter de N-word. Ça avait pas de sens. J'ai jamais vécu autant de racisme de ma vie. Puis, tu sais, on parle de ta jeunesse, comment c'est important. Toute ma jeunesse, ça a été ça. Ils m'ont volé ma jeunesse là-bas à cause de ce que j'ai passé au travers. Fait que quand je vais là-bas puis me souvenir de ça, ça rappelle pas de bons souvenirs. Tu sais, je suis capable de fonctionner quand même. J'ai été là-bas, j'ai parlé là-bas, j'ai fait des conférences là-bas. Mais c'est pas un endroit que j'aime aller, c'est ça.
Que tu portes dans ton cœur, malheureusement.
Ouais.
Ouais, on comprend, puis on précise ici que c'est pas une attaque contre les gens de Sorel en ce moment, mais c'est vraiment rattaché aux souvenirs que tu as vécu à cette période-là, puis que c'était trash, man. Dans tout ce que tu viens de décrire, c'était assez trash. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux, Georges Larocque?
Oh, aujourd'hui, pour vrai, tout me rend heureux. Je suis une personne positive aujourd'hui, mais tu sais, des projets foncés. Je suis une personne qui fonce dans la vie, dans plein de choses que je fais. Et tu sais, aider les gens, parce que j'ai joué en Ligue nationale, je me compte privilégié. Fait que j'essaie de faire plein d'œuvres caritatives pour faire une différence dans la société, pour aider des gens. Alors, aider le prochain, ça me rend heureux. Faire une différence, ça me rend heureux. Puis juste de faire sourire les gens, des inspirer, des aider à foncer à travers leurs rêves, pour moi, c'est ce qui est le plus important.
Moi, j'ai une question pour toi qui concerne, tu sais, justement les personnes racisées, parce que souvent, quand on a des modèles, ça vient avec une très grande pression. Parce que là, on a parlé, tu sais, de la pression que tu te mettais à toi-même, mais tu as une pression aussi de représenter la communauté. Tu sais, faut pas que tu paraisses mal, parce que sinon, ça va rejaillir sur tous les Noirs, tu sais, parce qu'on est tous coupables par association. Si tu as une mauvaise attitude, si tu fais telle affaire, tu as juste confirmé les préjugés de certaines personnes à l'égard des Noirs. Ça, c'est un poids supplémentaire. Est-ce que tu as eu des gens de la communauté qui sont venus te dire « Ah, on t'aime pas, t'es pas un bon modèle, tu te bats sur la patinoire, ta. » Est-ce que tu as subi des attaques à l'intérieur de notre communauté?
Non, j'ai jamais subi d'attaque par rapport à ça, parce que, encore une fois, quand tu réussis dans le hockey, c'est quelque chose qui est tellement
spectaculaire.
Puis je me suis tellement impliqué, j'ai tellement fait de choses dans la communauté noire, puis mes parents ont été impliqués énormément aussi, puis surtout l'hôpital en Haïti. Quand j'ai aidé à faire ça après la tragédie, les gens ont vraiment été touchés. C'était quelque chose qui... Tu sais, la tragédie est arrivée à Edmonton. En Haïti.
Oui,
la tragédie est arrivée, puis je vois pour le Canadien de Montréal. Puis ce match-là, j'ai marqué un but que j'ai déduit à tous les gens qui ont perdu des amis là-bas. Puis c'était tellement touchant. Puis j'ai été là-bas tout de suite après que j'ai été libéré par le Canadien. Tu sais, j'ai tellement fait de choses pour Haïti que les gens voient que, tu sais, j'ai pas oublié d'où mes parents viennent. Donc, tu sais, j'ai été souvent, j'ai été plein de fois. Donc, c'est pour ça que quand je regarde tout ça en bout de ligne, tu sais, quand les gens voient que tu mets de l'effort, tu as fait de l'apport pour la communauté, les gens le comprennent, le respectent. Et c'est pour ça que les gens voient ton apport. T'sais, j'ai coaché équipe Haïti, Walkéball. J'ai mis plein d'années de mon temps pour bien représenter les Haïtiens là-bas. Puis on a gagné en Suisse en plus. T'sais, j'ai tellement fait de choses pour la communauté en bout de ligne que je sais qu'en plus d'avoir réussi puis d'avoir aidé en dehors de la glace aussi, les gens...
sont fiers de toi.
Ouais, exactement. Ouais. Donc, il n'y a jamais personne qui est venu puis qui m'a dit « Hey, tu t'es battu » ou...
Parce que c'est toujours l'enjeu, tu sais, c'est comme « Ah oh, ouais, t'es le porte-parole des Noirs, mais t'es pas le porte-parole qu'on aurait choisi. » Tu sais, « Ah, ouais. Oh, t'as dit ça, mais c'est pas comme ça que moi, je l'aurais
dit. » Sauf que, tu sais, si quelqu'un m'aurait dit ça, tu sais, ça veut dire quoi? Jean-Pascal vous représente pas, Adonis vous représente pas, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui se battent à la boxe.
Ouais.
Je veux dire, c'est pour ça que, tu sais, en bout de ligne, un sport de combat, hockey, le hockey, j'ai fait un sport, oui, je me battais, mais en bout de ligne, les gens, tu sais, quand tu réussis dans le sport professionnel, tu réussis dans le sport professionnel. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, tant que tu restes un bon exemple en dehors puis que t'aides la communauté, les gens vont reconnaître.
C'est toujours un petit peu ambivalent. T'as parlé d'Adonis, tu sais, mettons, on peut pas ignorer quand même le passé aussi, là, tu sais, la criminalité, tout ça, tu sais.
Ouais, mais il a payé, tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu payes de tes crimes, à un moment donné, t'as une deuxième chance.
Oui, à la réhabilitation, mais est-ce qu'il a payé ce qu'il devait payer pour le crime? Ça, c'est un autre débat.
Mais l'autre débat, c'est... OK, regarde bien ça. L'autre débat... L'autre débat, je vais te dire que c'est ça, OK? Est-ce que, d'abord, les gens sont pas d'accord avec le système de justice? Parce que c'est le système de justice qui l'a jugé. Donc, si les gens sont pas d'accord à ce qu'il a payé ses crimes, donc vous n'êtes pas d'accord avec le système de justice, donc le problème, c'est pas le fait que lui, il y a un système de justice qui a dû respecter, donc si vous trouvez que la situation de justice n'est pas assez sévère, ça, c'est un autre débat qu'on devrait parler.
Ouais.
Mais là, ça englobe beaucoup de personnes. Ça englobe beaucoup de personnes qui ont commis les mêmes genres de crimes, qui ont eu la même démence par après. Tu sais, clémence, je veux dire, pour clémence par rapport à ce qu'ils ont dû payer par rapport à ça, à cause du système de loi. Fait que ça, c'est ça qui est différent.
Mais c'est juste qu'il y a un stigma par rapport aux Noirs sur certains types de crimes, notamment le proxénétisme, n'est-ce
vrai.
Pas? Fait que quand t'as un dude comme ça qui fait ce genre de crime-là, qui, a purgé sa peine ou whatever, là, tu sais, ça renforce le stéréotype qu'on a à l'égard de la communauté.
Le meilleur exemple.
Est-ce que c'est un modèle qu'on veut avoir ou non?
C'est ça, c'est un modèle qu'on veut avoir. Mais, tu sais, quand tu parles de différence entre noir et blanc, quand t'as des boxeurs qui ont fait des choses tout aussi pires, puis qui sont plus pardonnés, qui ont été en prison, puis sont plus pardonnés, puis qui ont fait des choses odieuses. C'est là que tu vois la différence entre la perception à ce qu'un noir va faire, puis ce qu'un blanc va faire. Parce que, tu sais, il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner qui ont été faits par des blancs dans la boxe. Tu sais, sans nommer leur nom, encore une fois, les gens comprennent. Je suis sûr
qu'ils comprennent. Est-ce que tu as peur du name-dropping, Georges Larocque?
C'est pas que j'ai peur, c'est parce que le show. Il faut baser sur commencer à attaquer les gens puis les nommer. Fait que c'est pour ça
on
que...
devrait.
Mais les gens savent que je parle juste avec ce que j'ai dit là. Puis c'est juste pour expliquer la nuance entre quand un noir fait quelque chose, puis un blanc va faire quelque chose.
Je comprends, absolument. Puis le poids est différent, effectivement, de l'action. Ouais. Donc, les répercussions sont toujours, toujours différentes aussi. Puis une dernière chose qui m'est venue en tête, là, puis on wrap up là-dessus, promis. Tu sais, maintenant, là, il y a les réseaux sociaux. Toi, c'était à une époque, là, où ça existait pas. Tu sais, tu rentrais chez vous, puis tu pouvais, malheureusement, rentrer chez vous, pleurer dans ton oreiller, mais le harcèlement prenait fin. Commençait à la patinoire, prenait fin à l'aréna aussi, sur la patinoire, tu sais. Là, aujourd'hui, les joueurs, là, sont constamment harcelés. On le voit, là, qu'il y a des gens qui sont victimes de racisme sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre mal contre lequel on peut rien, là.
Non, c'est pour ça que si t'as pas la couenne assez fort pour ça, efface tes comptes des réseaux sociaux, embarque pas là-dedans.
À ce point-là?
Oh, parce que les réseaux sociaux, à tous les jours, je bloque des gens qui émettent des propos racistes.
Encore aujourd'hui?
240 000 personnes sur Twitter. À tous les jours, je reçois des choses.
Impossible.
Sur Facebook, en privé, je reçois plein de choses tout le temps. Puis.
Comme quoi?
N-word.
Vraiment?
Ouais, là, juste après ce qu'on a fait là aujourd'hui, je vais en savoir, c'est ça, je vais
savoir. Ah oui, c'est clair, ben oui. Il va y avoir un backlash, hein?
Oui.
Pour chaque entrevue accordée sur le racisme, dites-vous qu'il y a un backlash.
Puis c'est-tu quoi? Puis ça, c'est sûr. Puis de toute façon, ce que je vais dire aux gens qui en ont, dépensez votre énergie, je m'en fous maintenant aujourd'hui. Je vais l'effacer, je vais vous bloquer, vous créer d'autres comptes pour m'insulter. Mais c'est vous qui avez un problème et non moi. C'est vous qui avez un problème à l'intérieur de vous-même qui vous tuez parce que moi, ça me fait pas un pli. Maintenant, aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent derrière leur ordi. Ça change rien. Dépensez votre temps. Je vais juste vous bloquer puis ça va me passer à travers la tête.
When they go low, we go high, comme disait Michelle Obama. Hashtag Queen, une de mes idoles et qui avait absolument raison sur cette formule-là. Je pense peut s'appliquer à n'importe quelle personne racisée. Je pense qu'on comprend ce qu'elle a voulu dire par là, n'est-ce pas? Georges Larac, merci. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment apprécié comme témoignage. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour du sujet.
Ouais, pas mal.
Merci de t'être livré avec autant de franchise puis de générosité aussi parce que c'est pas nécessairement facile de replonger dans des souvenirs.
Ah non, c'est facile.
Poche. Ah oui?
Ouais, mais okay. Non, c'est facile. C'est facile, merci.
T'es en thérapie, puis ça va?
Non, depuis que j'ai écrit mon livre, ça m'a débloqué.
Ah, d'accord, c'est ça.
J'ai écrit mon livre en anglais puis en français sur ma vie, ma biographie. J'en ai tellement parlé, j'ai tellement fait des conférences là-dessus que maintenant, aujourd'hui, c'est super facile d'en parler.
Ah, mais ça, c'est cool. Alors, donc, ça donne quand même une petite lueur d'espoir là pour ceux qui sont en ce moment dans des arénas, qui chaussent leurs patins puis qui reçoivent des choses pas très jolies. Ben, dites-vous qu'il y a une lumière au bout de tout ça et tu en es l'exemple vivant.
Merci.
Merci encore.
Ça fait plaisir.
Le chouchou de la semaine. C'est le moment du chouchou de la semaine parce que vous le savez, même si Dalila est pas là avec moi aujourd'hui, ben je pouvais pas passer à côté de cet instant privilégié où on vous fait découvrir une œuvre culturelle qui vaut le détour selon notre humble opinion. Et cette semaine, je vous parle de quelque chose de très léger. Je vous parle de musique en fait parce que ben c'est l'hiver, il fait noir, il fait froid, on est en mode cocooning. Et moi, depuis quelque temps, il y a un album qui m'accompagne que j'ai découvert grâce à ma collègue. Rosemée Autonne-Témorin, là, que je côtoie là, sur différents plateaux. C'est elle qui m'avait fait découvrir cet album-là pendant l'été. Il s'agit de The Ballad of the Runaway Girl. C'est un album de la chanteuse Elisapi, qui autrefois se faisait appeler Elisapi Isaac comme nom d'artiste. Et maintenant, elle l'a juste réduit à Elisapi. Et c'est un album qui est sorti là, en septembre 2018, mais que, comme je vous le disais, j'ai découvert pendant l'été et qui m'accompagne depuis, particulièrement depuis la température s'est refroidie, donc des chansons chantées dans sa langue d'origine, parce qu'Elisapi, ben, elle est autochtone. Elle est née d'une mère Inuk et d'un père Terneuvien. Elle a passé une partie de son enfance là, au Nunavik. Et donc, elle chante dans sa langue. Vraiment un album qui est magnifique, qui est vraiment des ballades, mais qui est aussi, comment dire... Ah, mon Dieu, je veux pas dire ça comme ça, mais il y a un aspect très, très sauvage, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un retour à la terre qui s'exprime à travers les mélodies aussi. Donc, c'est très, très organique au niveau de la rythmique. Donc, vraiment un album que j'adore et que je vous invite à découvrir. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui, cette semaine. Donc un grand merci à Georges Larac. Salut à Dalila. J'espère que tu prends du bon soleil, ma maudite. Et salut à vous autres, chers auditeurs. Merci de nous accompagner semaine après semaine à Pigment Fort. Donc plus qu'une émission avant les vacances, avant notre petite relâche à toutes les deux, à Dalila et à moi. Et on espère évidemment vous retrouver là, en grande forme en janvier. Mais je vais garder les salutations, là, les adieux pour plus tard. Alors pour l'instant, je vous dis tout simplement à très bientôt. À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné. Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.